Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Allons-nous parler pour ne rien dire, comme Raymond DeVos le prétend ? C'est à voir. Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour, vous en jugerez. Bonjour aussi à mon invité, il s'appelle Benoît Califano, il dirige l'école supérieure de journalisme ESJ Pro Campus, on va voir ce dont il s'agit. Nos parcours professionnels se sont maintes fois croisés quand j'étais journaliste et depuis, entre nous, un vouvoiement artificiel m'a semblé tout à fait pas tout à fait à sa place. Donc allons-y pour le tutoiement. Depuis plus de 15 ans, tu diriges l'ESJ Pro Campus, qui rayonne bien au-delà de Montpellier dans l'univers du journalisme et de la formation des journalistes. Elle fêtera ses 20 ans dans quelques jours. C'est l'occasion de t'inviter. Mais si tu aurais pu devenir ingénieur, tu as activé en amateur ta passion pour le journalisme radio dans une radio associative de Montpellier, Radio Clapas, ami de Divergence. Puis tu t'es engagé définitivement dans cette voie avec une formation et une série d'étapes. Dans une télé locale, Télé Soleil, puis depuis Montpellier pour une émission phare de France Inter, Là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet. Ensuite pour la cinquième chaîne, alors chaîne de la connaissance et du savoir, c'est plus tout à fait le cas, avec une production marquante, la série d'émissions tournées dans le pays d'origine de la famille d'un lycéen ou d'une lycéenne de Montpellier, et avec sa contribution. Elle s'appelait « Kilomètre Delta ». Pendant 15 ans, tu as promené ton micro et ta carcasse à travers le monde. Tu as notamment réalisé des films en Afghanistan, dans les Balkans, en Palestine et ailleurs. Puis, on t'a proposé de mettre ton expérience au service d'apprentis journalistes. Ce que tu as fait, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, comme directeur. Nous allons y revenir. Mais d'abord, pour respecter la formule de cette émission, raconte-nous toi, ton Montpellier. Quels sont les lieux qui figurent ou pas sur les cartes postales que tu aimes particulièrement, auxquels tu es attaché, peut-être en promeneur de Montpellier? C'est plus branché aujourd'hui d'être cycliste, mais allons-y pour promeneur. Les quartiers que tu as fréquentés et qui racontent à la fois la ville et ton propre parcours.
D'accord, alors je vais raconter Montpellier en se tutoyant. Alors peut-être une petite incise là-dessus, parce que moi j'ai fait beaucoup de radio aussi. Et j'avais l'habitude, effectivement, aussi, moi, de vous voyez les gens, même les gens avec lesquels j'avais une grande proximité. Je comprends ton... On va se tutoyer, puisque c'est ton émission et je suis...
Tu respectes la règle.
Dans ton univers, si j'étais à ta place, moi, je vous voirais pas du tout pour poser une espèce de distance artificielle, puisque le tutoiement... entre deux personnes qui se connaissent bien, a quand même une qualité qui est celle de l'honnêteté vis-à-vis de l'auditeur. Mais néanmoins, quand on se tutoie à l'antenne, je trouve qu'on exclut un peu l'auditeur de notre conversation. Et je trouve que le vouvoiement permet effectivement de l'intégrer un peu plus à notre histoire d'émission. Et donc moi, je suis plutôt favorable au vouvoiement. Mais tutoyons-nous.
Alors, on a compris, bon, bien évidemment, ce genre de question, je me suis posé deux ou trois fois depuis qu'on m'a confié cette émission, mais ce qui est intéressant, c'est que ta manière de répondre déjà donne le ton et fait apparaître ta personnalité ou ta réflexion sur ces questions. Alors revenons
ma ville,
à Montpellier. Voilà,
ma ville, Montpellier.
Tu es originaire d'Avignon, mais tu vis à Montpellier depuis très longtemps.
C'est ça. Alors j'ai grandi à Avignon, effectivement, et j'arrive à Montpellier en 1988. À l'époque, je pense que le tunnel Comédie venait juste d'être fait. Donc, c'était juste après que les voitures aient quitté
l'œuf.
À l'époque, en parlant d'œuf, les bus, ça va ressembler à des boîtes de lustre cru.
Oui, avec des damiers blancs et bleus.
Exactement. Et moi, je m'installe à l'époque dans le quartier Sainte-Anne, à Montpellier, autour de l'église Sainte-Anne, dans un petit appartement d'étudiants. Je viens faire mes études de mathématiques. À l'université Paul Valéry, l'université des sciences, pardon. Et je m'installe au quartier Sainte-Anne, un quartier que j'aime bien. À l'époque, quartier Sainte-Anne, le centre-ville n'est pas encore piéton. Hein, c'est encore les voitures circulent un peu encore dans tout le centre-ville. À l'époque, beaucoup d'étudiants dans le centre-ville. la ville ne s'est pas encore totalement gentrifiée, même s'il y a encore des étudiants qui vivent dans le cœur de ville. Oui. Hein. Mais on est encore dans des quartiers qui ne sont pas du tout rénovés, qui sont avec des appartements en très très mauvais état, donc pas chers et dans lesquels on peut se loger facilement. J'aime bien ce quartier à l'époque, il y avait une librairie qui s'appelait La Page Blanche, qui était rue Saint-Guilhem.
Oui.
Et il y avait juste à côté de chez moi aussi une galerie rue Saint-Guilhem qui s'appelait la Galerie Hélène Trintignant.
Oui.
J'en parle parce que ça correspond bien à Montpellier. Je me souviens qu'à l'époque, moi, jeune étudiant fauché, hein, je voyais régulièrement en vitrine de cette galerie les œuvres de Bioulès, donc peintre montpelliérain. Et j'étais fan, et j'adorais ça. Je ne savais pas
avant que Vincent Bouglès ait acquis la notoriété qu'il a aujourd'hui.
Exactement. Et à l'époque, c'est dommage que j'ai pas eu d'argent parce que j'en aurais bien acheté un ou deux.
Qui vaudrait être très cher aujourd'hui.
Et aujourd'hui, et je serais peut-être un peu fortuné. En tout cas, il m'avait déjà tapé dans l'œil. Et c'est, je parle de Bioulès parce que c'est vraiment une figure artistique de Montpellier, je trouve. Et quand le musée Fab lui a rendu hommage en faisant cette grande rétrospective, ça nous a permis de découvrir l'ampleur de son talent. Donc voilà, après je bouge beaucoup dans la ville.
Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais on a compris que ce quartier, c'est un peu la matrice, je dirais, de ton parcours montpelliérain. Et ensuite, il y a eu d'autres lieux, d'autres espaces auxquels tu es attaché.
Bien sûr. Alors, en parallèle, mon frère, lui aussi, était à Montpellier. Lui, il a visité Place Candolle. Et là encore, la Place Candolle, c'est assez marrant de regarder ce qu'elle est devenue, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un quartier gitan. Et... il se passait toujours quelque chose sur la place le soir. Il y avait déjà les premiers troquets. Et il y avait aussi les gitans qui étaient là sur la place. Et c'était vraiment leur espace. Et c'était aussi un espace musical formidable. Aujourd'hui, ils ont complètement ou quasiment complètement disparu de ce quartier-là. Et là aussi, on voit comment la ville s'est transformée. Ensuite, je m'installe aux Beaux-Arts. Là encore...
Une appétence quand même pour les quartiers qui illustrent... la mutation de la ville.
Exactement, parce que les Beaux-Arts, c'était encore un quartier très populaire, même s'il le reste encore en partie, hein, contrairement à l'image qu'il a dans la ville, d'un quartier très bobo, tout ça. Il y a vraiment les deux univers qui vivent ensemble, ou en tout cas essaient de vivre ensemble. Donc les Beaux-Arts, que moi, c'est un quartier que j'ai beaucoup aimé, avec une grosse dynamique, une grosse implication. Le bar des super vedettes, qui était le QG de Roland Ramad et des Réglisses, qui était un petit bistrot sur la place des Beaux-Arts, qui existe encore sous une autre forme. Et ensuite, je vais vivre à Figrol. À chaque fois, je vais dans des quartiers où, à l'époque, ça ne coûtait pas très cher.
Oui, c'est des quartiers populaires pas chers et qui ont muté depuis. Quoi.
Voilà. Alors, Figrol reste encore un quartier peu gentrifié, même si c'est en train de changer. À l'époque, ce que j'ai aimé à Figrol, c'était un quartier où il y avait... beaucoup de gens impliqués dans la vie du quartier. Donc c'était un quartier qui était assez...
Une vie associative intense.
Oui. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, me semble-t-il.
Voilà.
Oui.
Et je finis aujourd'hui en étant à Clémenceau, qui est un quartier en pleine mutation. On est au milieu des tractopelles. Et qui est un quartier qui est intéressant aussi pour son côté, là encore, pas encore totalement gentrifié, alors que la ville a tendance, dans son centre, à devenir de plus en plus gentrifié. Si vous voyez mon parcours, on est toujours dans la première couronne, c'est-à-dire que ma ville, je l'aime si je peux la parcourir à pied.
Ah, quand je parlais de piétons, c'est bien ça, quoi. C'est bien
le promeneur
de Montpellier.
Alors aujourd'hui, à vélo, je circule quasiment qu'à vélo à Montpellier, mais à chaque fois que je me suis installé dans cette ville, l'endroit où je me suis installé, c'était toujours la possibilité d'aller jusqu'à l'Écusson, à pied, et aussi, comme je voyage beaucoup, pouvoir aller à la gare, je parle de la gare Saint-Roch, aller à la gare à pied. Donc, et j'aime bien ce côté, être au centre, sans être totalement au centre-ville.
Alors, dernière question sur ce chapitre, baladons-nous dans Montpellier. Tu as été le témoin et peut-être un des acteurs de la mutation, du dynamisme de la ville, avec une croissance démographique urbaine très importante. Comment tu l'as vécu, ou plutôt comment tu le vois aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a, en gros, des gens qui se sentent un peu dépossédés des Montpellier qu'ils ont connus, d'autres qui sont portés, on peut considérer qu'ils le font sincèrement, par cette vague là, hein, urbaine très forte. Et quel est ton propre regard?
Alors, Montpellier a toujours été une ville très multiple et elle continue à l'être. Hein, une ville à la fois étudiante, une ville avec des acteurs du tertiaire extrêmement présents, une ville avec des universitaires, avec des chercheurs. Bon, voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça ne bouge pas beaucoup. Ce qui bouge, c'est qu'elle grossit. Et qu'elle a grossi, qu'elle a grossi, qu'elle a grossi.
Changement d'échelle.
Voilà. Changement d'échelle avec quand même une ville qui, historiquement, est étroite. Et qui se retrouve effectivement à avoir énormément grossi avec une volonté politique de ça. Hein. Il y a eu une course en avant en disant Montpellier, la surdouée, machin, bidule, il faut. Après, il y a eu une version, c'était quoi Montpellier, c'était en anglais. Unlimited.
Oui, Montpellier Unlimited. Voilà.
Ouais, c'était moins glorieux dans la réussite.
Ça a tourné court d'ailleurs.
Exactement. Et. Avec ce sentiment, en même temps que cette ville garde toujours cette espèce de dynamique, cette espèce d'énergie que moi je trouve assez séduisante. Je ne suis pas un pur Montpelliérain, donc, même si je me sens Montpelliérain aujourd'hui, hein, donc pas du tout rattaché à Montpellier n'a plus d'identité.
Oui, pas de patriotisme.
Non, moi j'aime bien cette identité multiple de la ville, à la fois avec. Donc elle continue à avoir ça et cette dynamique et cette énergie. Et en même temps, pour ne pas citer notre président de la République, le fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle a atteint sa taille critique et qu'elle déborde un peu et qu'elle étouffe un peu par les services publics, par les transports, par tout ça, par son étroitesse
spatiale.
Et pour la première fois dans l'histoire politique de la ville, je crois que le maire Michael Delafosse a commencé à dire... Il faudrait qu'on arrête de grossir.
Ah oui, ça, c'est clair.
Et je crois que c'est la première fois que j'entendais...
Le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours de révision le dit clairement. On limite au maximum la consommation de foncier à ce jour non bâti.
Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de changer le logiciel de la ville qui s'est bâti sur cette espèce de course en avant et cette volonté
d'expansion.
De grandir, hein, d'expansion, qui a été impulsée par Georges Frêche dans les années 70, fin des années 70. Et aujourd'hui, dire « bon, c'est bon, le curseur, on le met ailleurs », je trouve que c'est assez intéressant. Comment je vis la ville ? Moi, je la vis plutôt bien en circulant, parce que j'ai la possibilité, effectivement, d'aller au travail à vélo, d'aller dans la ville à vélo, et je vois bien comment, d'année en année, ça s'améliore pour moi. Mais je vois bien comment, autour de moi, ça devient de plus en plus compliqué de circuler dans cette ville.
Bien sûr.
Je vois bien comment ça devient de plus en plus compliqué de se loger financièrement dans la ville. Hein. Et donc, voilà, je ne sais pas vers où on va. En tout cas, je trouve que les chantiers qui sont actuellement en cours dans la ville me permettent d'imaginer une ville plutôt intéressante. L'idée, alors je n'ai pas envie de reprendre les slogans de campagne, mais d'une ville un peu plus apaisée me plaît.
Un peu plus douce.
Un peu plus douce. Voilà. Donc j'ai plutôt un regard positif sur l'avenir de la ville. Hein. Elle me plaît bien.
Alors c'est bien avec Benoît, c'est qu'il répond des questions qu'on n'a pas encore posées, mais qui étaient prévues. Donc avançons. Alors une question charnière entre ce sujet et celui qui t'amène à notre micro. Donc les deux sites que l'école a connus, hein, ouais. Grammont et puis l'ex-EAI et la caserne Le Pic pour... Par ce biais-là encore de l'implantation, de la localisation, de raconter à grands traits, bien sûr, les 20 ans de ce qui s'appelle aujourd'hui ESJ Pro Campus.
Voilà. Alors, début des années 2000, une autre école de journalisme nationale qui s'appelait le CFJ et qui avait une antenne à Montpellier, installée à Grammont, met la clé sous la porte. Donc, le centre ferme. Et le maire de l'époque, donc Georges Frêche, qui était aussi, à mon avis, à l'époque, président de région, je pense.
Oui.
J'étais pas encore dans la boucle, moi. Avec deux, trois journalistes qu'il connaissait, notamment avec Pierre Serre de la Gazette de Montpellier et Jean Kouchner, journaliste montpelliérain aussi, il leur dit, bon voilà, il n'y a pas de grande ville sans grande école de journalisme. Il nous faut une grande école de journalisme. Et bon, ils font les go-between avec l'ESJ Lille, en allant chercher donc la grande école de journalisme en France, qui est l'ESJ Lille, en proposant à l'ESJ Lille de s'installer, d'installer une antenne à Montpellier, à Grammont, et de leur donner des conditions favorables pour que cette installation puisse se faire de façon viable économiquement. Et c'est comme ça que l'ESJ Lille décide de s'installer à Montpellier. Et là, le projet est intéressant, parce qu'il continue à être dans notre ADN, hein. Pourquoi le SG Lille s'installe à Montpellier? C'est quand même très très loin. Parce qu'à l'époque déjà, préoccupation à Lille, c'est de se rendre compte que la formation initiale telle qu'elle est proposée en France et telle qu'elle est un peu généralisée dans d'autres écoles de journalisme, telle que toi, Alain, tu l'as suivi, a tendance à être une espèce de reproduction d'élite. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu sur les mêmes types de profils de jeunes qui ont accès à ces formations.
C'est-à-dire l'origine sociale des étudiants.
Voilà, origine sociale des étudiants, également parcours universitaire, très Sciences Po. Voilà. Et il y a une vraie inquiétude de la profession et une inquiétude de certaines écoles en disant on est en train de complètement standardiser le profil des rédactions de demain.
Et ça, donc, c'est très intéressant, je le trouve, parce que c'est des questions qui sont encore sur le tapis.
Absolument.
Cette déconnexion, cette critique de ce que serait la déconnexion des élites journalistiques, en tout cas dans les grands médias, par rapport à la société française, qui était le diagnostic originel qui a induit l'engagement de l'ESJ de Lille à Montpellier. On peut le résumer comme ça.
C'est ça. Alors, cette vision aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé là-dessus. Hein. Les choses ont bougé, mais c'est vrai qu'on garde cette image parce que je pense que l'image qu'a le grand public du journalisme, c'est hélas plutôt une image des éditorialistes qui monopolisent les plateaux de télé. Hein. Et la vraie vie d'une rédaction et de la fabrication de l'information en France, elle ne se passe pas sur les plateaux de BFM TV ou de C'est dans l'air. Hein. Donc première préoccupation, proposer à Montpellier une autre voie d'accès au journalisme en donnant effectivement une priorité à la question des diversités. Je dis des diversités parce qu'elles sont à la fois sociales, ethnoculturelles. Voilà. Il y avait toute cette volonté de diversifier le plus possible.
Et cette ambition s'est donc perpétuée ?
Oui, parce que le projet, ça a été de dire à Montpellier, on va faire de l'alternance. Et on va former les journalistes en alternance. À l'époque, l'alternance, elle n'a pas le vent en poupe dans nos métiers. Hein. Elle est réservée aux métiers manuels, aux métiers de bouche.
Oui.
Et là, en France, effectivement, là, c'est naturel, l'alternance.
C'est pour aller vers l'artisanat. Donc, depuis, ça a bougé, y compris des formations d'ingénieurs ou autres. Mais à l'époque, c'était très cantonné dans cette vision très traditionnelle de l'alternance.
Et ça n'allait pas de soi dans nos métiers. Et très, très vite, les rédactions se rendent compte que c'est extrêmement intéressant. Parce que d'abord, ça renoue avec le compagnonnage qui a été historiquement la manière dont on a formé pendant des décennies les journalistes, notamment dans la PQR. Et puis, parce que c'est efficient et que ça propose de mettre sur le marché du travail des journalistes qui ont un autre profil. Et c'est très professionnalisant. Donc, on a continué à maintenir ça, c'est-à-dire que c'est vraiment notre cœur de métier de pouvoir aller chercher des profils qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a 14 écoles de journalisme reconnues en France.
Reconnues comme étant de bonne qualité à la fois par les organisations professionnelles des journalistes, les syndicats et les syndicats des patrons, des éditeurs.
Voilà, paritaire,
il y a une espèce de ce label, parce qu'il y en a d'autres. Hein.
Bien sûr.
Il y a une floraison.
Et il y a une centaine de formations
journalistes. Donc 14.
En France. Ouais. Et sur ces 14, nous, on se dit à quoi ça sert de proposer le même type de formation que les autres et de faire sortir finalement les mêmes. Donc, nous, notre idée, c'est de dire, voilà, notre marque de fabrique, elle est là. On a deux mots-clés dans notre école. Le premier, c'est l'exigence et l'exigence sur les profils de diversité. Et puis, la bienveillance dans notre accompagnement des jeunes. Et notre préoccupation, c'est d'abord, au-delà de transmettre le geste professionnel, de développer la question de la responsabilité sociale des journalistes.
D'accord. Voilà. Alors ça peut engendrer d'autres questions. Pour finir rapidement le tableau, il y a la perpétuation de cette offre et s'est développé depuis quelques années un partenariat avec l'Université de Paul-Valéry, avec une licence et un master qui méritent qu'on en parle, bien sûr, parce que ça élargit l'offre de formation au journalisme ici à Montpellier.
Oui, alors, l'école a beaucoup grossi depuis 2002. Aujourd'hui, il y a près de 400 étudiants chez nous. On n'était que sur l'alternance. Moi, une envie de me rapprocher de l'université pour essayer de travailler aussi sur un mélange de savoirs académiques particulièrement intéressant, effectivement, sur des universités comme celle de Montpellier. Et puis, de pratiques professionnelles à travers nos enseignements à nous. Et dans un premier temps, on se rendait compte que quand on allait rencontrer les enseignants, les lycéens, et qu'on échange avec eux sur nos métiers, ça nous arrive régulièrement puisqu'on nous invite beaucoup, soit dans les salons d'étudiants, soit dans le salon post-bac, soit dans les établissements eux-mêmes. Quand un jeune lycéen venait nous voir en disant « Moi, je veux devenir journaliste, je veux rentrer dans votre école », la première chose qu'on lui disait, c'était « Bon, t'es gentil, Coco, tu commences par aller à la fac, tu fais une filière de droit, une filière d'histoire, une filière de Sciences Po, une filière de littérature, ce que tu veux, ça, c'est en fonction de tes goûts. Fais des stages, va voir ce qui se passe dans les médias, profite de ces années universitaires, et puis quand tu auras une licence, viens nous voir, on va commencer à s'intéresser à toi. »
Pour acquérir les savoir-faire professionnels.
Exactement. Mais pour l'instant, vérifie que c'est bien vers ça que tu as envie d'aller et solidifie ta culture générale et ta méthodologie. Et puis on s'est dit, avec l'université Paul Valéry, avec les linguistes, qui avaient très envie aussi de travailler autour des questions de journalisme, pourquoi on ne commencerait pas lentement à accompagner des étudiants de la fac vers le journalisme. Et c'est comme ça qu'on a créé une filière post-bac avec l'université Paul Valéry, où un jour par semaine, les enseignements universitaires sont remplacés par des moments de réflexion, de découverte de l'information, du journalisme, de l'actualité, réflexion sur ces questions-là, découverte des métiers. Et c'est des années que nous, on accompagne fortement aussi, en les incitant aussi à les voir dans les médias, à faire la part entre le métier rêvé et le métier réel, qui est essentiel parce que c'est un métier qui se construit aussi avec du fantasme. Hein.
Oui.
Et ça a bien marché. Ça a si bien marché que là, on est en plein bilan Parcoursup. Là, cette année, on avait une trentaine de places et on a eu 1600 demandes. Voilà. Donc, et ces trois années de licence n'ont pas la prétention de les former au journalisme, mais de les aider à construire leur projet professionnel pour qu'ensuite, ils puissent intégrer une formation au journalisme, soit chez nous, soit ailleurs. Hein. Ou alors de dire, c'est pas mon truc, là, le journalisme, en fait, ce que je pensais, c'est pas du tout ça que... Et donc se réorienter vers autre chose, et tout en gardant leur licence hein, et leur diplôme.
D'accord. Alors, le temps file, il file très vite.
Je suis un peu bavard.
Alors, peut-être une question attendue. Hein. Bon, on le sait les uns les autres. Depuis quelques années, les médias connaissent de profondes, voire brutales mutations. Hein. Alors, explosion des supports numériques, déploiement de l'offre, les réseaux sociaux, les sites Internet, les podcasts en radio, etc. Et de l'autre côté, les modèles économiques, notamment dans la presse écrite, fortement ébranlés. Les ravages de la manipulation de l'information ou de la désinformation, les fake news, comme on dit, la fatigue informationnelle des gens qui décrochent, c'est un phénomène très vaste qui impacte fortement et les entreprises de presse et les journalistes. Comment les prenez-vous en compte et dans quelle mesure ça impacte, je dirais, les contenus ou les orientations générales de la formation que vous proposez ?
Alors, comment on le prend en compte ? D'abord, une vraie inquiétude hein, sur le métier de journaliste. Est-ce qu'on va encore avoir besoin longtemps des journalistes ? J'ai envie de dire, dans cet univers d'infobésité et dans cet univers, effectivement, où se confrontent communication, information, fake news, tout ça, voilà, et cette profusion, moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes.
Oui. Hein.
Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un public qui est vraiment à la recherche d'espace où on sait qu'il y a eu un travail de journaliste.
Fiable.
Voilà. C'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours facile à repérer. Mais il y a des grandes marques, parce qu'il faut aussi parler de marques concernant des médias, qui sont effectivement une certaine garantie.
C'est une garantie de fiabilité, de qualité.
Et en tout cas, que le boulot a été fait.
C'est pas pour autant totalement parfait, bien entendu.
Bien sûr. Modèle économique, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. On dit beaucoup aujourd'hui, et je pense que c'est assez vrai dans l'information, quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Hein. Je pense qu'on a traversé une période où, effectivement, le numérique nous invitait à penser des modèles tout gratuits, avec un internaute qui refusait de payer. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui ont dit ben non, nous on va essayer.
Et qu'on fait la démonstration qu'on pouvait.
Voilà.
vendre de l'information.
Exactement.
Et trouver des acheteurs.
Ouais, notamment Mediapart, hein, les seuls qui peuvent acheter notre journal, c'est vous. Qui peuvent nous acheter, c'est vous. Un très beau slogan. Et Le Monde, aujourd'hui, a développé une offre numérique qui, économiquement, commence à être très solide. Le Figaro aussi. C'est plus compliqué pour la presse quotidienne régionale, hein, qui cherche encore, effectivement, la manière dont ils vont pouvoir...
Un peu difficilement, me semble-t-il.
Oui, ouais, de façon très, très dure. C'était préoccupant. Donc voilà, nous, comment on s'adapte à ça? Déjà, on rassure les étudiants en disant « Vous êtes au bon endroit, on a besoin de vous ». Et c'est important parce que ces étudiants, ils viennent en disant « On veut être utile ». Et c'est pour ça qu'on...
Mais ils expriment une inquiétude sur ce que peut être leur parcours professionnel, appuyé sur ces inconnus, cette montagne d'inconnus et d'incertitudes.
Ah bah évidemment, parce qu'effectivement, ce n'est pas le métier le plus rassurant aujourd'hui pour un jeune ou pour les parents d'un jeune qui leur dit « voilà ».
Mais ils ont la pêche quand même.
Oui, mais il y a cette envie, effectivement, cet engagement de choisir pas n'importe... de choisir ce métier pour des bonnes raisons. Hein. Les bonnes raisons étaient effectivement cette question d'être un acteur de la société et de pouvoir agir. Comment on s'adapte à tout ça? Alors nous, sur le numérique, évidemment, il traverse aujourd'hui tous nos enseignements. Et c'est très compliqué parce qu'on a à peu près le même temps pour former un journaliste aujourd'hui. Il faut qu'il acquiert tous les fondamentaux du métier, hein, qui sont les fondamentaux de collecte d'informations, de vérification, de déontologie, d'écriture, de narration. Et ça ne bouge pas.
Les fondamentaux.
Il faut que tout change pour que rien ne change. Et en même temps, il faut rajouter des compétences techniques très fortes sur le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui vient chez nous et qui se destine à être un journaliste de presse écrite, il va devoir... apprendre à publier sur le web, à faire de la vidéo, à faire de l'audio, à faire de la photo, à gérer les réseaux sociaux, à faire du data journalisme. C'est-à-dire qu'on rajoute des compétences multiples et on a un peu moins de place pour mettre tout ça. Donc, en fait, on passe notre temps à travailler sur du chausse-pied. Et je sens que vous allez me parler d'intelligence artificielle.
On ne peut pas. Alors, ça sera probablement la dernière question. Donc, bon, on connaît ce phénomène. Bon. Il y a un travail qui a été fait, là, principalement aux États-Unis, une étude qui a montré que sur 101 éditeurs qui avaient répondu à l'enquête, 40, la moitié, grosso modo, des rédactions interrogées utilisent aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle générative, qui produisent notamment du texte, des images. Seulement un cinquième d'entre elles ont cadré leur utilisation. Alors, gros enjeu, une espèce de tsunami dont on ne voit, me semble-t-il, que les tout débuts. Comment vous regardez ça et comment vous vous préparez à affronter cette nécessaire adaptation?
Alors, pour le moment, on observe. Pour nous, école de journalisme, c'est toujours... on essaie d'être un peu en phase avec les médias, ni être trop en avance, ni être en retard. Donc, il faut qu'on comprenne aussi la manière dont les médias vont s'approprier ça et nous, la manière dont on va accompagner ça. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui... on n'a pas intégré l'intelligence artificielle dans nos enseignements.
C'est trop tôt.
Pour nous, c'est trop tôt.
Pour éviter l'effet d'un engouement prématuré, notamment.
L'histoire du journalisme est ponctuée de ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, tout le monde me disait « Benoît, il faut de l'enseignement au webdoc. » Le webdoc, le webdoc, le webdoc a complètement disparu. Voilà. Donc, on observe. Mais c'est quelque chose dans lequel qui va révolutionner nos métiers et qui va révolutionner l'information. Pour le meilleur et pour le pire. Et nous, il faut absolument qu'on s'approprie ça. Et grâce aussi à nos partenariats avec l'université, on va pouvoir avoir disposé, nous deux, d'une belle matière grise pour pouvoir nous aider à construire ça.
D'accord.
En même temps, les médias qui, eux, vont nous aider à nous montrer comment ils essaient de s'approprier ça. Et l'université qui va avoir une vision plus macro et qui va nous aider, effectivement, à réfléchir sur ces questions-là.
Donc, alors, on n'arrive pas au bout des questions qui pouvaient venir. Bon, j'espère qu'on a satisfait la curiosité des auditeurs et peut-être avec l'idée qu'il faudra réinviter le directeur de SJPRO dans 10 ans. Ça sera Benoît Califano ou un autre ou une autre pour poursuivre cet échange. Merci Benoît Califano et
merci
à la prochaine
à vous.
Fois. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.